Bienvenue à tous nos auditeurs pour les Échos de l'innovation, votre émission radio sur Graphite 94.9, dédiée à explorer les frontières passionnantes de la technologie et du progrès. Alors que la technologie façonne notre quotidien de manière toujours plus profonde, il est impératif d'examiner comment elle peut également, dans certains cas, desservir la cause environnementale. Au cours de cette émission, nous allons explorer les avancées récentes, les défis et les opportunités dans ce domaine en constante évolution. Aujourd'hui, nous allons vous embarquer dans le sujet crucial de la pollution cachée du numérique. Restez à l'écoute pour découvrir comment le numérique n'est pas systématiquement un allié de poids dans la lutte pour la préservation de notre planète. On va commencer tout de suite par se présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Estelle Fournier, je suis une étudiante de 23 ans en 5e année d'école d'ingénieur à l'UTC et je suis spécialisée en ingénierie biomédicale. Ma passion pour les sciences et la technologie m'a toujours guidée vers des domaines où l'innovation peut avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être des individus. Aujourd'hui, je suis ici pour explorer avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le lien entre le numérique et l'écologie. À une époque où la technologie façonne notre quotidien de manière profonde, il est essentiel de comprendre comment elle peut être mise au service de la préservation de notre environnement. Je vais rapidement laisser la parole à Clara et Shiraz qui vont partager leurs propres perspectives sur ce sujet. Et restez à l'écoute.
Bonjour à tous, je m'appelle Clara Alvado, je suis actuellement en deuxième année à l'UTC. Je suis le cours de SI1 Sciences et Débats afin d'avoir une ouverture sur les enjeux sociaux dans le monde de l'ingénierie. Comme Estelle a pu le dire, la compréhension entre le numérique et l'écologie est cruciale. Et c'est pour cela que je me suis impliquée davantage sur les différentes problématiques et les solutions mises en place afin d'allier l'innovation et l'écologie.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Shiraz et j'ai 20 ans. Je suis en deuxième année d'école d'ingénieur. Passionnée par l'aéronautique et l'aérospatiale, je suis consciente que ces deux domaines ne sont pas forcément les amis de la nature à travers leurs émissions importantes de gaz à effet de serre. Alors à travers cette émission, je voudrais mettre le point sur la relation entre le numérique et l'environnement en explorant quelques données avec nos spécialistes. Avant de commencer notre première rubrique, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Graphite 94. Notre thème d'aujourd'hui tourne autour du numérique et écologie et quel futur. Avant de commencer d'analyser les différents points de vue sur ce sujet d'actualité, j'aimerais bien clarifier quelques notions sur comme le numérique. Le numérique, souvent désigné comme la convergence des technologies de l'information et de la communication, englobe un large éventail de domaines incluant l'informatique, les télécommunications, l'Internet et les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Il est également caractérisé par la manipulation et le traitement de l'information sous forme numérique, permettant le stockage, la transmission et l'analyse des données de manière rapide et efficace.
L'écologie, c'est un mot que tout le monde connaît, mais que veut-il dire concrètement ? Selon le dictionnaire, c'est une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Les hommes sont donc à la recherche de la bonne balance entre lui-même et ce qui l'entoure. De nos jours, notre équilibre ne tient plus qu'à un fil, dû à l'extinction de la biodiversité, la pollution de l'air, la dégradation de la qualité des sols, la pollution des eaux, etc. On est donc sur un plateau de jeu où chaque acte dépend du lancer de dés. Mais pour pallier à ça, différents moyens ont été mis en place afin d'avoir une solution vers un meilleur équilibre. On va d'abord avoir une forme de soutenabilité, ce qui désigne une configuration de la société humaine qui lui permet d'assurer sa pérennité. Une telle organisation humaine repose donc sur le maintien d'un environnement vivable, permettant ainsi le développement économique et social à l'échelle planétaire. On va aussi essayer de concevoir par exemple de l'électricité verte, produite uniquement à partir de ressources d'énergie renouvelables telles que l'énergie hydraulique, éolienne, solaire, etc. Cette prise de conscience écologique n'a cessé de se développer. La montée en puissance des figures fédératrices, à l'image de la suédoise Greta Thunberg ou de la militante écologiste française Camille Etienne depuis 2018, démontre une prise de conscience certaine du désastre environnemental par une tranche de la population. Mais pour comprendre cette conscience écologique, il est important d'observer ce qui nous entoure, les différents matériaux que l'on utilise au quotidien et de se rendre compte que notre petit bout d'écran active aussi la crise écologique.
Vous l'aurez cependant compris, il y a un paradoxe entre le numérique et l'écologie. Les experts utilisent souvent l'expression « pollution invisible » pour décrire le mythe de la dématérialisation dans le domaine numérique. Alors que le numérique semble immatériel, il a en effet un réel impact sur l'environnement. à tel point qu'aujourd'hui, si le secteur du numérique était un pays, il serait le sixième plus grand émetteur de gaz à effet de serre de la planète. En France, le secteur représente 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. D'autres chiffres, en 2020, le secteur du numérique représentait entre 3 et 4% des émissions mondiales de CO2, se plaçant devant le secteur aérien civil. Les gaz à effet de serre émis par le monde du numérique seraient en outre appelés à doubler d'ici 2025 si le secteur continue de se développer à sa vitesse actuelle. Pour relever ce paradoxe, il est impératif de promouvoir une utilisation responsable des technologies numériques, ce que nous allons explorer dans la suite de cette émission. Cela signifie favoriser l'adoption de pratiques durables tout au long du cycle de vie des produits, de la conception jusqu'à la fin de vie. Il est essentiel d'encourager la recherche de solutions innovantes visant à minimiser l'empreinte environnementale des technologies numériques. En combinant l'innovation technologique avec une conscience environnementale, nous pourrons contribuer à façonner un avenir où le numérique et l'écologie coexistent harmonieusement.
Pour introduire le thème d'aujourd'hui, nous allons nous inspirer du jeu du Good Decrypt qui consiste à répondre à un maximum de questions en une minute. Pour cela, je vais poser des questions à Estelle et Clara. Est-ce que vous êtes prêtes ?
Oui, pour ma part, c'est bon.
Oui, on est prêtes.
D'accord. On commence. Est-ce que l'écologie vous impacte dans votre quotidien ?
Oui. Oui.
Faites-vous des efforts pour réduire votre consommation écologique ?
Oui, ça dépend.
Est-ce que vous connaissez votre impact sur l'écologie ?
Oui.
Oui.
Avez-vous entendu parler avant de préparer l'émission d'une empreinte numérique ?
Oui.
Oui.
Possédez-vous plus de 3 appareils numériques ?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous changez vos appareils alors que ceux-ci sont encore fonctionnels ?
Parfois.
Oui, ça m'arrive souvent.
Recyclez-vous ces appareils une fois ceux-ci obsolètes ?
Ça m'arrive de les recycler, mais j'avoue pas tout le temps.
Ouais, pareil, ça dépend.
Connaissez-vous des outils numériques écologiques que vous utilisez au quotidien ?
J'en connais un peu, mais pas forcément beaucoup.
Pareil, même réponse que Clara.
Pensez-vous que les GAFAM tiennent compte de l'empreinte numérique ?
Oui et non.
Oui, voilà, ça dépend aussi.
Alors, si je reviens sur vos réponses sur ce quiz, non, je remarque que sur la dernière question, pensez-vous que les GAFAM tiennent compte de l'empreinte numérique ? Vous avez eu des réponses différentes, une oui et une non. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez répondu comme ça ?
Alors, pour ma part, je pense qu'il faut d'abord expliquer la puissance des GAFAM. Donc, en fait, Internet, ça a été créé il y a quasiment 30 ans. Donc, de base, c'était décentralisé. Ça veut dire qu'on avait plusieurs serveurs, plusieurs stockages d'informations qui étaient un peu déployés dans toute l'Amérique. Et peu à peu, on a donc les GAFAM qui ont commencé à s'installer. Donc, du coup, on a eu une centralisation d'Internet. Donc, ça veut dire qu'on a des services, que, par exemple, comme les réseaux sociaux, les outils de messagerie, les applications de stockage, etc., qui sont fondés sur des modèles techniques et économiques dans lesquels les utilisateurs créent de la demande à des serveurs très très puissants qui vont permettre de stocker l'information et gérer le trafic. Donc ces serveurs très puissants, on va retrouver voilà, Google, Amazon, Facebook, etc. Et donc du coup, on peut parler de greenwashing en 2024 parce qu'en fait on a eu, grâce aux réseaux sociaux, énormément de personnes qui ont commencé à être des activistes, à prononcer voilà, des phrases contre ces puissances mondiales. Et donc, pour cela, on a aussi une réponse de Google, d'Amazon, etc. sur ça, notamment par des affirmations telles que, par exemple, pour Google, 100% de l'électricité utilisée était renouvelable. On a aussi Facebook qui va dire que dans ces gaz à effet de serre, ils ont réduit de 94% afin d'atteindre la neutralité carbone. Et on a aussi, par exemple, en 2019, Jeff Bezos qui lance son Climate Pledge. Donc, ça permet d'avoir le premier signataire d'Amazon.
Alors, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'évidemment, les entreprises font des efforts, c'est sûr. Mais après, je trouve qu'elles ne communiquent pas énormément sur le sujet. Et je pense qu'elles comptent vraiment sur le fait que, malheureusement, la société n'est pas informée sur le sujet de la pollution numérique pour finalement faire passer la technologie comme quelque chose d'assez neutre, écologiquement parlant. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, la pollution numérique, c'est un véritable sujet. Ça représente plus d'émissions à gaz à effet de serre que le secteur aérien civil, ce qui est énorme. Et donc ces entreprises, comme on l'a dit, comme tu l'as dit, voilà, que ce soit Amazon, Google, donc tous les GAFAM,
voilà, utilisent ce greenwashing. Et d'ailleurs, il y a une agence de communication britannique qui s'appelle Futera, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui justement est spécialisée dans la reconnaissance en fait, du greenwashing de ces différentes entreprises, et elle nous cite différents critères qui permettent de le déceler. Donc tout d'abord, il y a l'usage de produits verts par une entreprise qui ne l'est pas du tout. On va avoir l'usage d'images suggestives, de slogans abusifs. On va avoir, c'est une entreprise voilà, qui va prétendre qu'on est les premiers d'une classe sans dire qu'elle est composée de mauvais élèves. On va avoir un manque de crédibilité, un certain jargon écologique qui va être en fait utilisé dans le marketing principalement. On va également avoir l'usage de mots approximatifs et l'absence de preuves concrètes finalement qui prouvent en fait les dires.
Donc c'est sûr qu'on ne peut pas trop répondre à cette question parce qu'on est encore un peu dans le flou entre la place des GAFAM.
Et surtout, on n'a pas vraiment accès aux données. Ouais, c'est ça aussi qui est compliqué parce qu'en soi, les GAFAM peuvent dire un peu ce qu'ils veulent tant que c'est quand même des institutions qui sont assez secrètes. On va passer au deuxième quiz. Cette fois, c'est moi qui vais poser les questions à Shiraz et Clara. Alors, est-ce que vous êtes prêtes ?
Oui.
Alors, on va commencer tout de suite. La première question, c'est est-ce que les réseaux sociaux encouragent souvent à une consommation excessive de ressources numériques ?
Ça dépend.
Non.
Est-ce que le travail à distance et les réunions virtuelles peuvent-ils aider à réduire les déplacements professionnels et les émissions de gaz à effet de serre ?
Non.
Oui.
Pensez-vous que les entreprises devraient être tenues responsables de l'empreinte écologique de leur technologie numérique ?
Oui. Oui.
Est-ce que les initiatives de Smart Cities peuvent réellement améliorer la gestion des ressources naturelles et réduire les impacts environnementaux des zones urbaines ?
Ça dépend.
Non.
Seriez-vous prête à utiliser des technologies alternatives si elles étaient plus respectueuses de l'environnement, même si cela signifie un certain sacrifice de confort ou de fonctionnalité ?
Oui.
Ça dépend aussi.
est-ce qu'on peut dire que grâce au numérique, on pourra trouver des solutions pour l'écologie ?
Oui.
Non.
Alors du coup, on va revenir rapidement sur quelques questions parce que j'ai vu que les avis étaient assez partagés. En ce qui concerne les initiatives de Smart Cities, à votre avis, est-ce qu'elles peuvent réellement améliorer la gestion des ressources naturelles et réduire les impacts environnementaux des zones urbaines ? Est-ce que vous pouvez un petit peu développer vos réponses ?
En fait, oui. Moi, pour ma part, j'ai répondu par non. Mais avant d'expliquer mon point de vue, je pense que c'est utile d'expliquer c'est quoi une Smart City. Et en fait, c'est une agglomération urbaine qui exploite les technologies et les données pour améliorer la qualité de vie de ses habitants, favoriser la durabilité environnementale et optimiser la gestion des ressources. En résumé, c'est un lieu où les infrastructures et les services urbains sont connectés et utilisent des systèmes intelligents pour offrir des solutions innovantes aux défis urbains. Cependant, je pense qu'elles ne peuvent pas réellement améliorer la gestion des ressources naturelles et réduire les impacts environnementaux des zones urbaines. Par exemple, si on prend le cas de Smart Cities dans le monde, on prend le cas de Dubaï par exemple, où malgré les avancées technologiques et les initiatives de la ville intelligente, la croissance rapide de la ville a entraîné une forte pression sur les ressources naturelles telles que l'eau et l'énergie. Et malgré les efforts pour intégrer la technologie intelligente, les défis environnementaux persistent et nécessitent une approche plus holistique et durable pour être résolus. Des données ont été mises sur le site du gouvernement de Dubaï qui montrent que malgré les avancées technologiques, la ville reste en manque de certaines ressources essentielles à la vie, comme l'eau. En effet, Dubaï est située dans une région aride qui rend l'eau une source précieuse et limitée. Mais malgré les efforts pour utiliser des technologies intelligentes, la demande en eau continue d'augmenter avec la croissance urbaine et le développement économique, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les ressources hydriques déjà limitées.
Alors pour ma part, je suis d'accord avec ce qu'a dit Shiraz, mais c'est vrai que je me dis que là actuellement on vit quand même dans un monde qui est très numérique. Voilà, 90% des gens dans le monde ont des téléphones portables, donc je pense aussi qu'il faut essayer de concevoir un monde numérique qui respecte un peu l'écologie. Et c'est vrai que dans les smart cities, donc comme Dubaï, c'est vraiment pas très représentatif des smart cities, mais on peut citer par exemple en France d'ailleurs Lyon, Paris, bon, c'est un un peu compliqué, mais pareil pour les JO 2024 et ce qui essaye un peu aussi de devenir une smart city. Donc en fait, cette ville connectée, elle va aussi permettre de réduire, par exemple, certains facteurs écologiques, notamment par exemple l'eau. On a, grâce à la collecte de données, donc de la technologie de l'information et de la communication, donc les services intelligents TIC, on va pouvoir récolter des données. Par exemple, on va pouvoir récolter des données sur l'agriculture, sur l'eau, sur l'électricité. Et on va permettre aussi de donner ces informations aux habitants afin qu'ils puissent donner leur expérience et aussi pouvoir faire des actions en fonction de leur consommation. Donc, je pense que ça dépend.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et je pense aussi que finalement, les smart cities, on va avoir de nombreuses inventions qui vont être justement inventées pour réduire l'impact écologique. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, ça a été inventé pendant ça a été montré pendant la révolution industrielle et notamment avec l'émergence de la machine à vapeur. Parce que c'était finalement une machine qui permettait de consommer moins d'énergie pour accomplir certaines tâches. Mais comme la machine était plus efficace, elle a été utilisée de manière beaucoup plus régulière. Et donc finalement, les consommations d'énergie ont augmenté. Puisque même si elle permettait de réduire en fait les consommations, elle était plus efficace. Donc les gens l'utilisaient plus. Et je pense que c'est un peu la même chose pour les smart cities.
En fait, si je reviens sur le point de l'énergie, je pense que ça dépend de l'emplacement de la Smart City. Par exemple, si elle se situe dans une zone vraiment aride, comme je l'ai dit, ou bien où il fait vraiment chaud, la ville et le gouvernement vont investir plus dans l'infrastructure pour essayer de refroidir les bâtiments et les maisons. Et cela consomme un petit peu plus d'énergie que prévu. Et du coup, cela va entraîner des émissions aussi de gaz à effet de serre.
Oui, je suis d'accord. Et en fait, je pense que la réponse finale, c'est qu'à court terme, c'est sûr que les smart cities, elles ne sont pas rentables écologiquement parlant parce qu'il y a tout l'aspect construction des infrastructures, etc. Oui. Mais après, à voir à long terme, est-ce que justement, on pourra compenser avec toutes les économies d'énergie qu'on peut faire justement ces constructions.
Oui, moi je suis d'accord, je pense qu'on va dire que dans un futur proche, peut-être que la solution ce sera des smart cities, mais c'est vrai qu'actuellement il faut différencier le terme smart city par toutes les innovations qui se passent, parce que Dubaï du coup, je pense que le terme smart city lui correspond notamment par ses innovations technologiques, mais est-ce que elles aident vraiment l'écologie? Parce que du coup j'avais relevé qu'en gros ils collectaient les données des habitants afin d'avoir une application qui s'appelle Customer Happiness Experience. Et donc du coup, est-ce qu'on ne serait pas en fait dans la vente de données en empruntant des smart cities? Donc je ne sais pas si c'est une case du greenwashing comme on a pu le voir d'ailleurs pour les GAFAM.
Oui, en fait, et c'est à mentionner le cas des transports en commun et tout, sauf que j'ai l'impression quand une smart city va être mise en place et tout, elle va attirer plus d'habitants et du coup le gouvernement va être plus ou moins sous la responsabilité d'augmenter le nombre de véhicules pour le transport en commun. Et du coup, on sait que leur construction et leur mise en place va demander aussi une consommation de gaz à effet de serre. Et du coup, je ne sais pas si c'est plus rentable de faire un smart city ou pas sur le terme écologie.
Je suis totalement d'accord et je pense que ça vient de l'effet rebond justement, ce qu'on parlait tout à l'heure.
Donc on va passer maintenant à la rubrique 2, donc avant une petite musique.
Les soucis
donc, on est de retour pour la rubrique 2. Donc, la rubrique 2 qui se nomme d'ailleurs Zoom sur l'UTC. Donc, on va parler en fait du numérique dans l'impact du numérique pour l'écologie et qu'est-ce qu'en pensent les étudiants donc, de notre école. Donc, pour cela, on a fait un petit questionnaire qu'on a fait transmettre d'ailleurs sur Facebook afin de récolter le plus d'informations possible. Et donc, on a eu différentes questions et c'est vrai que principalement, il y a des questions qui nous ont quand même assez interloquées. On a par exemple la question de « Est-ce que vous achetez des appareils reconditionnés ?» Donc, 63,2% n'achètent pas d'appareils reconditionnés. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier. Je pense qu'aussi, on a un manque de...
D'éducation.
Ouais, d'éducation. Ouais. Et aussi, je pense, un manque de... on ne fait pas aussi parler de ces appareils reconditionnés. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent.
Il y a un manque de sensibilisation aussi.
Oui, voilà, tout c'est ça. Fait. Et on va aussi avoir, par exemple, est-ce que les gens recyclent leur appareil électronique ? D'ailleurs, comme la question qu'on a pu poser tout à l'heure. Et donc, pareil, 63% des gens ne recyclent pas leur appareil électronique. Donc aussi, je pense qu'il y a un manque de sensibilisation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Oui. Ce qui est quand même bien, parce qu'il faut savoir qu'en France et même en Europe, le chiffre monte jusqu'à 80%. Donc ça veut dire qu'au niveau des étudiants de l'UTC, on est quand même pas mal. Si 63% ne recyclent pas, plus de 40% recyclent. Donc,
Et après, on a même posé la question aussi de où ils se situent concernant l'impact écologique et numérique. Et c'est vrai qu'on a 60% des étudiants qui se sentent moyennement impactés et 18% qui se sentent faiblement impactés. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça.
18% faiblement impacté. Attends, tu peux reposer la question, s'il te plaît ?
Ah.
On va noter pour couper. C'est quand ?
Non, mais je le ferai moi, parce qu'en vrai, ça va être... Donc, on a aussi posé la question de où vous situez-vous concernant l'impact écologique et numérique. Et on a donc 60% des gens qui pensent qu'ils sont moyennement impactés et 18% des gens qui se sentent faiblement impactés. Donc, c'est des chiffres quand même qui sont très élevés comparés quand même à l'impact énorme du numérique sur l'écologique. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je penserais plutôt que c'est lié au quotidien de la personne. Mmh. C'est-à-dire si elle prend des moyens de transport, si elle recycle ses vêtements, si elle prend des vêtements réutilisés, je ne sais pas. Mais ça dépend du mode de vie de personne, je dirais.
Oui, moi je trouve que les chiffres sont assez faibles, surtout qu'on est dans une école d'ingénieurs avec quand même une certaine sensibilisation. C'est vrai que l'UTC, il y a quand même beaucoup de mouvements qui sont faits pour sensibiliser à l'écologie, il y a des associations. Donc c'est assez surprenant parce que si ces chiffres sont aussi élevés au milieu des étudiants de l'UTC, on se demande ce que ça peut être au sein d'une population comme la France par exemple.
Ouais. Moi, je suis d'accord. Et aussi, on a aussi, par exemple, la question qu'on avait posée, c'était combien possédez-vous d'appareils électroniques ? Donc, ce qui inclut ordinateur, téléphone, casque, etc. Et en fait, plus de 80% des gens ont plus de 4 appareils électroniques. Donc, en fait, on voit qu'on est quand même dans un monde où on vit par le numérique. C'est notre quotidien pour travailler, pour se renseigner, pour s'informer, pour même se divertir. Donc on est quand même dans une dépendance extrême dans le numérique. Je sais pas ce que...
Oui, je suis totalement d'accord. Et en plus, on est en école d'ingénieur, donc on a peut-être une certaine appétence aussi pour les différents appareils numériques. Et puis aujourd'hui, c'est de toute façon impossible de s'en passer.
Après, je pense aussi que c'est lié un tout petit peu à l'influence... à l'influence des médias, parce que si on revient sur les derniers appareils électroniques qui ont été mis en place, ils sont très bien médiatisés, ce qui peut influencer les jeunes, qui sont nous. Et dans cette rubrique, on va présenter un micro-trottoir qui a été réalisé en interrogeant des étudiants dans la rue pour leur poser des questions sur notre thème d'aujourd'hui, qui est numérique, écologie et quel futur.
Bonjour, est-ce que je peux vous poser quelques questions sur le thème de l'écologie et numérique, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr.
Okay. Est-ce que, selon vous, l'État doit prendre des mesures concernant l'urgence écologique numérique ?
Oui, à mon avis, l'État doit prendre des mesures parce que c'est l'État qui régit les lois. Et les lois sont très importantes pour limiter les abus et mettre des lois qui vont limiter la consommation, la surconsommation et la pollution. C'est très important pour éviter qu'on se dirige vers une catastrophe écologique.
D'accord, merci. Et avez-vous déjà entendu parler de l'impact environnemental de la fabrication et de l'élimination des appareils électroniques ?
Oui, enfin, je crois que l'extraction des métaux est très polluante. Après, j'ai pas des connaissances très très aiguillées, mais voilà, j'en ai déjà entendu parler.
Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que je peux vous poser quelques questions, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr.
Merci. Donc, pensez-vous que les entreprises devraient être tenues responsables de l'empreinte écologique de leur technologie numérique ?
Pour moi, oui. Après, la question, ça va être de savoir comment réussir à les tenir responsables, comment réussir à mesurer la quantité de numérique qu'elles utilisent, en fait. Donc, parce que ça va être utilisé dans les data centers, donc il faudrait réussir à faire des parts d'utilisation. Mais ça, je ne sais pas trop comment on fait.
D'accord. Et seriez-vous prêt à utiliser des technologies alternatives si elles étaient plus respectueuses de l'environnement ?
Je serais prêt. Après, il y a plusieurs questions qui se posent. Selon moi, forcément, une question de coût. Et je sais que dans les entreprises, c'est pas forcément... Enfin, c'est une question difficile, généralement. Et puis après, quelles seraient les alternatives au numérique actuellement ? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, vu la voie qui est en train d'être prise.
D'accord, merci beaucoup. Bonjour, est-ce que je peux vous poser quelques questions sur le thème numérique et écologie, s'il vous plaît ?
Bonjour, oui, bien sûr.
Alors, utilisez-vous des applications ou des outils numériques pour surveiller ou réduire votre consommation d'énergie ?
Franchement, pas vraiment. Je n'utilise pas des applications, mais je crois qu'il y en a les options sur mon téléphone, des fonctionnalités que j'utilise de temps en temps, mais pas forcément des applications.
D'accord. Et avez-vous déjà entendu parler de l'impact environnemental de la fabrication et de l'élimination des appareils électroniques ?
Ouais, franchement, pas mal de fois, j'entends parler des émissions de CO2, des gaz à effet de serre et tout, mais j'ai franchement pas trop de détails sur ce sujet-là.
D'accord. Merci.
C'était la réponse des étudiants qui ont été interrogés dans la rue. La plupart, c'était des étudiants de l'UTC. De l'école de technologie de Compiègne. Après, si je reviens un tout petit peu sur les réponses qui ont déjà été entendues, je pense que les étudiants aujourd'hui sont mitigés entre les rapports de coûts et l'empreinte sur l'écologie et l'environnement des nouvelles appareils technologiques alternatifs. Mais ils sont un peu dans le flou. Après, ils demandent d'être un peu sensibilisés par que ce soit les médias et le gouvernement qui demandent qu'ils fassent un tout petit peu de campagne de sensibilisation à ce sujet-là, parce qu'ils trouvent que c'est un peu moins sensibilisé que les autres domaines. Après, je ne sais pas si Clara et Estelle, vous avez quelque chose à en rajouter ?
Oui, je suis d'accord. Moi, je pense qu'avant tout, c'est un changement sociétal. Donc, c'est à la fois les gouvernements qui doivent légiférer sur le sujet, mais également les entreprises qui doivent prendre des mesures pour justement réduire l'impact écologique des appareils, et la société qui doit avoir une consommation plus responsable. Après, je crois que je voulais rebondir sur, il me semble, quelqu'un qui parlait du fait que les entreprises produisaient finalement des appareils qui n'étaient pas très respectueux de l'environnement. Avec différents matériaux comme le lithium, le cobalt, qui sont des matériaux assez rares. Après, il faut savoir que pour l'instant, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément d'autres alternatives à ces matériaux-là pour créer ce genre d'appareil. Donc voilà, et ce serait plus avoir une consommation raisonnée, recycler ses appareils, mais c'est vrai qu'au niveau d'utilisation de ces matériaux, ou alors faire des recherches, investir énormément d'argent en recherche pour trouver d'autres choses pour les fabriquer.
Ou bien peut-être s'il y a d'autres matériaux qui peuvent remplacer ces matériaux qui coûtent, qui sont pas vraiment bien pour l'écologie, peut-être qu'ils seront plus coûteux pour les entreprises qui ont déjà d'autres charges à régler, quoi.
Oui, et en fait, en parlant de ça, d'ailleurs, en octobre 2023, on a le RS2E, donc c'est le réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie du CNRS, qui est coordonné donc par le professeur Tarascon, qui commercialise Tiamat. Donc en fait, c'est des batteries qui sont plus durables, plus rapides à recharger, mais c'est vrai qu'elles coûtent extrêmement cher. Donc pour l'instant, on est toujours sur l'extraction du lithium. Etc. Et pour revenir aussi, c'est vrai que, comme elle avait dit, Shiraz, il y a un manque de sensibilisation. Peut-être qu'il serait temps, je ne sais pas, de sortir des associations. On a différentes associations, je crois, à l'UTC, qui commencent à faire surface, même des cours, comme WE1. Et comme c'est IS3 aussi qui prône un peu le low-tech dans le numérique, etc.
Ouais. Puis, comme aussi l'IS00 que j'ai fait en première année. Après, je pense qu'à l'UDC, qu'on est pas mal sensibilisé à ce sujet-là parce qu'il y a, comme tu avais dit, il y a des associations, il y a des cours, il y a d'autres façons d'être sensibilisé à ce sujet-là. Mais je ne sais pas si dans d'autres écoles ou bien dans d'autres formations, ils le font parce que je trouve que c'est un peu genre intéressant de faire cette sensibilisation aux étudiants et alors qu'on est vraiment dans l'ère numérique et du coup, ça serait bien de savoir notre impact sur l'écologie et l'environnement.
Alors maintenant, je vais vous laisser avec notre première invitée, Marion Cadu, qui est une activiste écologiste. Elle a récemment créé sa propre association, Right to Change, où elle va parcourir l'Europe à vélo afin de mettre en lumière des projets écologiques innovants. Aujourd'hui, elle nous donne son avis sur le sujet de la pollution numérique. On l'écoute. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Marion Cadu, qui grâce à ses différentes expériences au sein du milieu écologique, va nous apporter un éclairage sur le sujet. Donc bonjour Marion.
Bonjour Estelle.
Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ?
Oui, bien sûr. Moi, c'est Marion. Ça fait déjà maintenant 8 ans que je suis passionnée par ce domaine, puisque j'ai côtoyé différentes ONG, dont Greenpeace. J'ai continué me spécialisant dans le milieu de l'énergie, donc l'hydrogène vert plus spécifiquement. Et puis pour finalement créer moi-même mon association de développement durable, pour partir à la rencontre de divers acteurs du changement.
Parmi ces associations que tu nous as décrites dans le milieu écologique, comment elle percevait l'impact du numérique sur les problématiques environnementales actuelles ?
Alors en fait, c'est vrai que c'est un réel enjeu, puisque maintenant, en fait, toute la partie marketing d'une association, la communication, etc., se fait maintenant principalement via en fait, le numérique, que ce soit par les mails, que ce soit par les réseaux, etc. Donc effectivement, le stockage de données est principalement numérique. Effectivement, on a dû choisir et on s'est rendu compte que l'impact numérique avait quand même moins d'impact qu'une distribution de tracts, qu'avoir du matériel plutôt physique. Donc c'est pour ça qu'on a quand même décidé d'avoir une communication et une stratégie marketing numérique.
Et est-ce que vous avez fait des études comparatives pour justement évaluer l'empreinte carbone de la distribution de tracts vis-à-vis d'une distribution numérique ?
Alors oui, on s'est référé aux données de l'ADEME. Plus spécifiquement, on avait fait effectivement des études liées à notre association par rapport à nous, ce qu'on produisait.
Et si je ne me trompe pas, il y a toute la partie donc, conception des appareils numériques, que ce soit les ordinateurs, les tablettes, etc., qui ont quand même une empreinte carbone très élevée.
Oui, bien sûr, mais moindre apparemment de ce qu'on avait vu pour nos études en tout cas. Moindre que...
Donc c'est valable à toutes les échelles, donc à la fois pour toucher peu de personnes ou pour toucher un nombre élevé d'individus ?
Globalement, oui, mais après, effectivement, non, ça va se linéariser, entre guillemets, dans le sens où l'impact des mails, comme tu l'as dit, avec le stockage, va être de plus en plus impactant pour les serveurs, le stockage, les data centers, etc. Par rapport aux data centers, pour moi, ce qui est nécessaire de faire et ce qu'on a fait, donc pour moi, c'est plutôt d'utiliser le numérique, mais avec de la grande sensibilisation. C'est-à-dire de faire des posts et de régulièrement sensibiliser notre communauté en disant voilà, on fait notre publication sur les réseaux, on envoie des mails, etc. Mais c'est très important de trier ces mails, c'est très important de supprimer, c'est très important de savoir que faut tout le temps être sur le Wi-Fi. Faut privilégier le Wi-Fi que la 4G.
Et justement, t'as un petit peu répondu à ma question dans ta réponse, parce que ma prochaine question, c'était justement si l'association avait mis en place des projets pour sensibiliser justement à l'importance de concilier le numérique et l'écologie.
Donc... Alors oui, en fait, on avait une rubrique et on a créé un site internet justement pour parler de ces tips qu'on pouvait mettre en place. Donc, nous, la sensibilisation, c'était vraiment crucial. Donc, on avait carrément une rubrique pour sensibiliser à chaque chose, le numérique. Là. Donc, en fait, on n'oublie pas. On sait que c'est énergivore et que c'est impactant. Mais le plus important, c'est de sensibiliser les utilisateurs.
C'était quoi la réaction des utilisateurs ? Est-ce qu'ils étaient surpris que le numérique pouvait avoir un aussi fort impact, finalement, sur l'écologie ?
Oui, carrément. Notamment même pour le Wi-Fi, la 4G, etc. On s'en rend pas compte, en fait. On ne sait pas forcément. Oui, en fait, on se rend compte qu'on a très peu de sensibilisation au numérique et que c'est vachement important de, quand on sensibilise via le numérique, de quand même avoir une sorte de limite du numérique. De savoir que c'est hyper intéressant comme outil, mais qu'il existe effectivement des limites à ça.
Est-ce que tu as d'autres tips un petit peu à donner à nos auditeurs pour justement limiter son impact numérique ?
Alors oui, déjà, même dans l'envoi des mails, ne pas forcément envoyer avec des photos. pas forcément mettre de photos, de logos, etc. Ou supprimer d'abord ces mails-là, qui sont hyper énergivores. Toujours privilégier le Wi-Fi à la 4G, c'est sûr. Et préférer même la 4G à la 5G, c'est-à-dire qu'un appareil qui n'a pas la 5G va préférer cet appareil-là. Également, comme tu l'as dit, le numérique, c'est pas seulement le numérique de tous les jours, mais aussi c'est recycler les appareils, puisque actuellement, il y a plus de 80% des appareils donc numériques, téléphones, ordinateurs, etc., qui ne sont pas recyclés.
En France ou...
Ouais, globalement même, en Europe.
Ok.
Donc c'est vachement important de sensibiliser à ce recyclage, parce que au final c'est quand même des il y a que 10% mais ou 10% au moins, mais il y a beaucoup de matériaux rares, donc qui proviennent des terres rares qui sont dans ces téléphones, le lithium, etc., le cobalt, et qui sont maintenant donc en voie de on en a plus même.
Alors, ma dernière question était de savoir si justement les associations auxquelles tu as pris part ont pu collaborer avec des acteurs du numérique pour promouvoir des solutions innovantes.
On avait une application, si je ne me trompe pas, c'était Impact Fox ou Fox Impact, qui parlait justement de ça. C'était une ONG sur les réseaux qui parlait uniquement de la pollution numérique. Donc, c'était assez intéressant. Après, non, on n'a pas forcément poussé plus loin, puisque nous, on s'attardait sur d'autres sujets encore plus profondément. Donc, pour nous, le numérique, ça faisait partie de la sensibilisation, mais ce n'était pas notre champ d'action principal.
Donc merci à Marion pour cette interview. Alors pour nos auditeurs qui souhaiteraient justement réduire leur impact numérique, j'ai rassemblé quelques petits conseils supplémentaires et notamment des conseils que j'ai pu trouver dans le livre d'Alice Durand que je vous conseille de lire, qui s'appelle Raz-de-marée. Alors tout d'abord, on a le fait d'opter pour ce qu'on appelle la sobriété numérique en limitant les achats d'appareils électroniques superflus. Par exemple, si on a un téléphone qui prend des photos, éviter d'acheter en plus un appareil photo du numérique pour les réaliser. On privilégie aussi l'achat d'appareils avec une garantie prolongée, donc prendre une garantie de 5 ans ou de 10 ans au lieu de 2 ans. On peut également favoriser les produits avec un indice de réparabilité élevé, indice qui est d'ailleurs obligatoire depuis 2021 pour les téléphones et les ordinateurs en France. On peut également, notamment sur YouTube, désactiver la lecture automatique sur les plateformes qui consomment énormément. Limiter aussi la consommation de streaming en téléchargeant les contenus lorsque c'est possible. Comme ça, on évite en fait tout ce qui est flux de données. Utiliser les plateformes d'envoi de fichiers temporaires où les données sont stockées pour une durée limitée, comme par exemple seulement une semaine, et quand on les envoie par mail, malheureusement souvent c'est stocké pendant une durée indéterminée. Se désabonner au niveau des mails de tout ce qui est spam, liste de suivi également encore une fois pour réduire le flux de données. Et on peut également se renseigner sur l'indice de durabilité des différents appareils numériques. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ce que j'aimerais un petit peu, j'aimerais revenir rapidement dessus, c'est que ce qui pollue en termes de numérique, c'est quand même principalement les terminaux. Aujourd'hui, alors les chiffres varient, mais donc les terminaux, c'est nos appareils. Hein, ça va être les téléphones, les ordinateurs, etc. Les chiffres varient, mais c'est environ 63 à 82% des impacts. Et tout ce qui va être data center et réseau nous représente entre 18 et 37%. Donc, c'est évidemment pas marginal, mais ça reste quand même beaucoup moins important. Est-ce que Shiraz et Clara, vous avez des...
Moi, j'aimerais bien rebondir d'ailleurs sur les data centers et les terminaux, etc. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on pense que c'est le numérique dans sa globalité qui pollue, mais en fait, on a aussi beaucoup d'interfaces physiques qui sont donc nécessaires au fonctionnement du web, qui sont en fait souvent cachées, loin des regards, comme les data centers, toutes les entreprises de stockage de données, qui sont éloignées du quotidien des utilisateurs. On a par exemple les câbles sous-marins qui permettent quand même 99% de la communication d'après Eurafibre, et aussi les data centers d'ailleurs qui sont situés souvent dans des endroits très peu attractifs. Donc on a par exemple un data center à côté d'Orly, donc Wissou, qui accueille du coup un data center d'Amazon d'après Libération 2023.
Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que les data centers, il faut les refroidir constamment en fait pour qu'ils puissent justement conserver leur efficacité.
Et ça, c'est vraiment extrêmement gourmand en énergie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une entreprise française, donc la SNCF, qui justement s'est dotée d'un nouveau système où les serveurs sont directement refroidis par un liquide qui est proposé par l'entreprise Immersion 4 et qui justement permet d'être moins énergivore.
Oui, et on a aussi d'autres solutions par rapport à ça. On essaie de construire des data centers près des rivières pour pouvoir utiliser l'eau des rivières afin d'avoir des alimentations électriques qui sont beaucoup plus, on va dire, saines comparées à un data center, d'ailleurs, qui a une température ambiante qui dépasse les 30 degrés.
Je suis d'accord. Après, comme on l'a vu, c'est vrai que c'est quand même majoritairement jusqu'à 82% des impacts concernent les terminaux. Donc peut-être se concentrer sur un changement sociétal sur les terminaux. Que la société soit au courant que c'est très important de recycler, de ne pas avoir d'appareils superflus pour justement limiter cette pollution numérique.
On va donc maintenant parler donc dans la rubrique 4 de l'enseignement du numérique et de l'écologie par Stéphane Croza. Mais avant cela, on va avoir une petite pause.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras les...
C'était Respire de Mika 3D sur Graphite 94.9, une chanson de 2002 mais pourtant toujours autant d'actualité.
Et donc maintenant nous allons passer à l'interview de notre expert, donc c'est monsieur Stéphane Croza qui est d'ailleurs le professeur de l'UVWE0. Alors. Donc bonjour, nous sommes en direct avec Stéphane Croza, professeur à l'UTC, donc je vais vous laisser vous présenter.
Alors, donc, je m'appelle Stéphane Croza, comme tu l'as dit, je suis responsable de deux enseignements à l'UTC, WE1 que tu connais, dans lequel on parle des technologies du web, de l'histoire, du fonctionnement du web, et puis une autre UV qui t'intéresse peut-être, qui vous intéresse peut-être plus là dans ce contexte, qui s'appelle IS3, l'authéquisation et numérique, dans lequel on réfléchit à la conception, l'ingénierie, sous un angle un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, voire même très différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire en mettant au premier plan les enjeux sociaux et environnementaux.
Parfait. Donc je vais vous poser différentes questions qui vont aborder ce sujet. Donc la première, ça va être: comment les gouvernements et les entreprises peuvent-ils encourager l'innovation numérique tout en minimisant son empreinte écologique ?
Alors, c'est pas du tout une petite question, ça, c'est une grande question fondamentale. Donc c'est effectivement une bonne question. Est-ce qu'on peut ou pas, est-ce qu'on doit continuer d'encourager le numérique tout en affichant des volontés de minimisation des impacts environnementaux ? Donc la réponse n'est pas évidente, hein, il n'y a pas de oui ou de non. Je peux te citer des travaux qu'a fait l'ADEME, qu'on utilise beaucoup à l'UTC. L'ADEME a imaginé 4 scénarios qui permettent d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Alors c'est juste la neutralité carbone, hein, ça ne prend pas en compte tous les paramètres environnementaux, mais c'est un indicateur intéressant. Et dans ce scénario, l'ADEME justement répond à ta question de deux façons très différentes. Dans un scénario dit S4 de Paris technologique, si ma mémoire est bonne, eh bien, il s'agit d'investir massivement sur le numérique, l'innovation, l'international, en espérant que des solutions un peu... magiques vont apparaître pour capter le carbone, restaurer la biodiversité, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, il y a un scénario S1, sobriété, quelque chose, qui consiste au contraire eh bien, à dire, OK, on ne va pas tout couper, mais par exemple, pour le numérique, bah, on va faire avec ce qu'on a. On va arrêter de construire des nouveaux data centers, on va entretenir notre existant. Et finalement, on a déjà assez pour encadrer les travaux du GIEC, enfin, appuyer les travaux du GIEC, par exemple, ou faire des relevés de mesures de la biodiversité, etc. Donc peut-être que finalement, on a besoin du numérique pour certaines choses, mais on n'a peut-être pas besoin, comme les géants de la Silicon Valley nous le promettent, de construire des méga ordinateurs à plusieurs milliards de dollars ou de développer massivement l'intelligence artificielle. Ça reste une question.
C'est quoi, du coup, les solutions que vous allez proposer pour, on va dire, avoir un numérique qui sera beaucoup plus écologique ?
Alors encore une fois, il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas vraiment de magie. Peut-être la première, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, et ça ressemble au scénario S1 de l'ADEME, c'est peut-être d'arrêter de croître, de commencer par se calmer là-dessus. Donc ça peut être lié avec des politiques, effectivement, qui s'appellent aujourd'hui de décroissance, de considérer qu'on a déjà beaucoup d'ordinateurs, on sait déjà faire beaucoup, beaucoup de choses, et que déjà, si on utilisait ça, ça pourrait être une première façon de faire. Après, il y a aussi le modèle d'organisation des entreprises qui peut être en cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des entreprises dans lesquelles, en général, il y a beaucoup de capitalisation. Donc derrière, il faut faire des profits, il faut rémunérer les actionnaires. Il y a d'autres modèles d'entreprises, comme les coopératives, des logiques qui sont inspirées des communs. Donc l'idée, c'est plutôt que des gens travaillent ensemble pour un objectif, mais pas forcément avec l'objectif de capitaliser à outrance.
Et est-ce que vous pouvez expliquer en quoi les technologies numériques elles peuvent être à la fois solution donc de ce problème environnemental, mais à la fois aussi du coup le problème en lui-même ?
Alors c'est pas que pour le numérique, hein, c'est vrai un peu pour tout, mais oui, donc on peut prendre deux exemples assez simples qui montrent cette ambivalence. Alors si je sais pas si ça passe, tu le couperas sur graphique si tu veux, mais si on fait un tout petit peu de philo, il y a Bernard Stiegler qui parlait de pharmacon pour dire qu'effectivement les technologies étaient ambivalentes, elles avaient toujours un côté positif et négatif, on va dire. Donc pour répondre à ta question, comme je te le disais aujourd'hui, eh bien, dans le numérique, les géants sont en train de parler de milliards et de milliards d'investissements dans des méga ordinateurs. Donc là, c'est potentiellement effectivement des impacts extrêmement forts en termes de disponibilité de certains matériaux, en termes de réchauffement, etc., de consommation d'énergie, de dissymétrie dans le monde. Enfin voilà, plein d'effets potentiellement délétères. Et puis de l'autre côté, un exemple que je prends souvent, parce qu'on pourrait se dire, après tout, on n'a qu'à balancer tout le numérique et puis arrêter tout le numérique. Mais par exemple, eh bien, les travaux du GIEC, que je mentionnais tout à l'heure, les travaux de plein de chercheurs aujourd'hui qui démontrent la chute de la biodiversité, ils sont réalisés grâce à des ordinateurs. Et si on n'avait pas ces technologies numériques, eh bien, on ne serait pas en capacité de prouver, comme on le fait aujourd'hui, qu'il y a des impacts environnementaux importants. On en serait encore à discuter de la météo, dire il faisait un peu plus chaud hier, il faisait un peu plus froid. Donc ça, voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même des réalités scientifiques qui sont démontrées. Et ça, c'est aussi grâce à l'informatique et au numérique. Alors pas forcément, encore une fois, on n'a pas forcément besoin des méga IA. Les travaux du GIEC, ça a commencé dans les années 70. Et les modèles des années 70, ils étaient déjà pas si mal. Alors on a fait beaucoup de progrès, c'est pas la peine de retourner en arrière, on a 50 ans de plus de progrès. Mais en gros, on a certainement déjà des technos aujourd'hui qui nous permettent de faire pas mal de trucs.
Alors, si on revient un tout petit peu sur l'interview qui a été réalisée, comme entendu, l'émergence de nouveaux serveurs axés sur la lutte contre le consumérisme et promouvant des valeurs de collectivité telles que Framasoft ouvre des nouvelles perspectives dans le paysage numérique. Ces plateformes offrent des alternatives à des services populaires comme Google Docs, YouTube ou Facebook en mettant l'accent sur la liberté du logiciel et la protection de la vie privée. Ce mouvement vers une émancipation numérique se traduit par la volonté de retrouver l'autonomie, l'esprit critique et la liberté dans les pratiques en ligne. En favorisant l'accès libre et gratuit à des services en ligne, ces initiatives encouragent également l'éducation populaire, permettant à chacun de partager et d'accéder aux connaissances. Dans cet archipel numérique où chaque individu est une île avec son identité, mais baignant dans des valeurs communes, la coopération devient une évidence. Ainsi, ces nouveaux serveurs représentent un pas vers un monde numérique plus éthique et équitable, basé sur la collaboration et le partage des savoirs.
Alors, exactement, je suis totalement d'accord. On a des nouvelles alternatives, donc comme Framasoft. On va avoir aussi, par exemple, Ecosia. On va aussi trouver des nouvelles applications aussi qui vont permettre d'avoir du covoiturage, qui vont permettre de calculer son empreinte carbone, etc. Et il faut savoir qu'on a réalisé une étude en 2019, donc par Switch, qui explique que 70% des étudiants et des jeunes travailleurs vont privilégier des entreprises qui sont engagées sur des sujets écologiques. Parce que effectivement, en fait, les étudiants de nos jours, comme on a pu voir même à l'UTC, on est très sensibilisés. Donc du coup, on a aussi un choix qui va se faire par rapport à notre futur métier. Donc qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, qu'est-ce qu'on a envie d'innover, de quelle manière aussi on a envie d'avoir une innovation, et de la bonne manière de la mauvaise. Et donc voilà, on a différentes alternatives, même par rapport à l'IA. Il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à l'IA aussi pour avoir des solutions technologiques. Et le but, c'est vraiment d'enlever le modèle consumériste où on crée pour beaucoup recevoir. On est plus à un modèle assez
raisonné,
assez libre. C'est plus, on crée en fait pas pour faire de la demande encore plus, mais juste pour aider les gens et ne pas toujours faire des mises à jour sur des applications, toujours trouver plus fort et en polluant encore plus. On est vraiment sur le système de tant que ça nous suffit, c'est le plus important. Quoi.
Dans cette émission riche en découvertes, nous avons plongé dans les profondeurs de la révolution numérique, dévoilant tant ses aspects lumineux que ses zones d'ombre. Alors que nous aspirons à un avenir où la technologie et l'écologie coexistent harmonieusement, nous ne pouvons ignorer les défis posés par la pollution numérique. Les chiffres alarmants nous rappellent que le secteur du numérique, bien qu'omniprésent dans nos vies, contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre et à la consommation de ressources naturelles. Cependant, au-delà de ces défis, nous avons également exploré les voies de la solution, mettant en lumière des initiatives innovantes telles que les technologies de refroidissement liquide pour les data centers, les pratiques de sobriété numérique et les efforts pour promouvoir une utilisation responsable des technologies numériques.
Oui, si je reviens sur ce que tu viens de dire, sur l'interview qui a été réalisée par toi et celle, je pense qu'il y a des tips qui ont été révélés et dites que j'estime qu'ils sont assez importants pour réduire notre impact sur l'écologie. Et j'estime que plusieurs de nos spectateurs, ne savent pas vraiment comment faire pour réduire leur impact écologique par des petites choses qui peuvent vraiment éviter connexion ou de leur messagerie par mail, par exemple, comme tu avais dit. Et je pense que c'est intéressant de sensibiliser les jeunes à ce sujet-là.
Oui, je suis totalement d'accord. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas qu'on parte sur une individualité quand on parle d'écologie, d'innovation, de devoir, par exemple, trier ses mails. Il faut vraiment que ce soit une collectivité qui s'en occupe, donc c'est-à-dire un groupe de personnes. C'est beaucoup plus important. Et je pense aussi que, donc du coup, pour conclure, le numérique, il doit aider, il aide forcément à une transition écologique. D'ailleurs, on a une petite citation de la Global Enabling Sustainability Initiative qui dit que la transformation numérique et la transition écologique doivent coexister. Mieux, la première peut et doit servir la seconde.
Merci à tous nos auditeurs pour votre écoute et votre engagement envers un avenir meilleur. Restez connectés et à bientôt sur Graphite 94.9 pour les échos de l'innovation.